Europe 1, sans rendez-vous. Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être en direct de 15h à 16h. Dans ce studio pour vous accompagner, on retrouve bien sûr le docteur Jimmy Mohamed en pleine forme.
Bonjour oui, Jimmy. Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire aujourd'hui dans notre grand dossier du jour, il sera question de nos articulations qui vieillissent et qui peuvent dérailler avec l'âge. Parfois la pose d'une prothèse de hanche ou de genou est nécessaire. Alors comment se passe cette opération? Est-ce douloureux? Quels en sont les bénéfices? Pour en parler, nous sommes avec le professeur Julien Girard, chef du service de chirurgie orthopédique au CHU de Lille. À l'occasion du Pasteur Don, nous nous intéresserons aussi à l'Institut Pasteur. Quelles sont les recherches qui s'y déroulent actuellement? Comment ce centre travaille-t-il sur le coronavirus? Benjamin Lévesque vous dira tout. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo. Aujourd'hui, une question que beaucoup se posent. Y a-t-il un âge pour se caser en couple? Nous aurons le plaisir de retrouver Catherine Blanc pour en parler.
Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Et pour ouvrir cette émission, voici le vrai faux avec le docteur Jimmy Mohamed. On vous apporte les réponses aux questions que vous nous posez au 3921, le répondeur d'Europe 1. La première question, c'est celle de Clémence.
Bonjour Anne, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Alors moi j'ai 36 ans, j'ai eu 2 grossesses durant lesquelles j'ai fait de l'hypertension. Maintenant, tout est réglé, ça va mieux. Cependant, j'avais entendu que vous aviez dit que ça pouvait augmenter les risques cardiovasculaires. Alors, je voulais savoir ce qu'il en était et comment m'assurer, par quel examen m'assurer qu'aujourd'hui tout va bien. Je vous remercie, passez une bonne journée, au revoir.
Alors, votre question, Clémence, est bien légitime. Et pour vous répondre très précisément, notre journaliste Benjamin Lévesque a contacté le docteur Claire Mounier-Veillé. Elle est chef de service à l'Institut Cœur-Poumon au CHRU de Lille et cofondatrice d'Agir pour le cœur des femmes.
L'hypertension au cours de la grossesse témoigne d'un trouble de la fabrication du placenta et ça identifie des femmes qui, plus tard, ont un risque effectivement un petit peu plus élevé, multiplié par 2 environ, d'être hypertendues au moment de la ménopause ou en périménopause et de faire un accident cardiovasculaire s'il n'y a pas de mesures de prévention et de dépistage correctement effectués régulièrement. L'auditrice a fait 2 épisodes, donc quand ça récidive une deuxième fois, on sait que c'est un petit peu plus à risque de rester hypertendu au moment de la ménopause ou de redevenir hypertendu au moment de la ménopause. Et donc la sécurité, c'est de se faire prendre sa pression artérielle à minima une fois par an par son gynécologue ou par son médecin traitant. Et puis, on est très vigilant à son hygiène de vie alimentaire, notamment le sel, et la pratique régulière d'une activité physique, pas forcément une salle de sport, mais bouger régulièrement. Puis, au moment de la quarantaine, 40-45 ans, là, on refait le point de façon un peu plus précise, avec un bilan lipidique, une glycémie à jeun, à nouveau la mesure de la pression artérielle, on surveille la prise de poids régulière.
Voilà Clémence, on peut jouer sur la prévention, on espère que vous serez rassurée. Une autre question d'auditeur nous a été laissée sur le répondeur, c'est celle de Katia.
Bonjour Jimmy, bonjour Anne, je me posais une petite question. On porte tous le masque depuis des semaines, pratiquement tout le temps, et je me demandais si au-delà du Covid, les médecins avaient remarqué qu'il y avait aussi moins de rhume, moins de rhinopharyngite, bref, moins de virus de saison, quoi. Est-ce qu'on va passer l'hiver plus tranquille ou non? J'aurais aimé savoir ça. Merci beaucoup, au revoir.
Alors cette question, elle est pour vous Jimmy. Qu'est-ce que les médecins constatent en consultation?
Je constate qu'il y a un véritable relâchement dans les comportements. Je vois de plus en plus de jeunes infectés du Covid qui en ont marre, je peux le comprendre, mais malgré tout, l'épidémie progresse à tel point que désormais, 60% des lits de réanimation sont occupés en Seine-Saint-Denis par du Covid. Donc la marée monte, elle monte jusqu'au moment où nous allons tous couler. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous vous réunissez avec des amis, vous vous exposez à avoir la maladie ou à la transmettre. Et j'ai vu une patiente hier qui avait des symptômes de Covid et qui m'explique samedi soir avoir été dans un appartement de 50 mètres carrés avec 20 personnes pour faire la fête. Et lorsque je lui dis que c'est peut-être pas le moment, elle m'a dit « bah oui, mais les bars n'avaient qu'à pas fermer ». Nous serions allés dans un restaurant, dans un bar. Ben non, si les bars et les restaurants ferment, c'est pour une bonne raison. C'est pour ne pas se retrouver entre amis. L'épidémie progresse. Alors on a applaudi les soignants à 20h. Désormais, vraiment, restez chez vous. Vous pouvez voir des gens, mettez un masque. Laissez 2-3 semaines que le système puisse absorber des pathologies qui souvent seront bien plus graves que le Covid, mais pour lesquelles on n'aura pas de place.
Donc le masque, c'est pas un accessoire, c'est obligatoire. Et en plus, ça peut nous protéger des autres virus que le Covid.
Oui, la grippe dans l'hémisphère sud est beaucoup plus légère. Et effectivement, si on respecte les gestes barrières, si on se lave les mains, si on est à distance, si on porte un masque, on devrait moins tomber malade. Néanmoins, il y a des PCR qu'on fait, des malades chez qui on suspecte du Covid. La PCR est négative, ça veut dire qu'ils ont attrapé autre chose. Une gastro-entérite, une bronchite, une rhino. Ça veut dire malgré tout qu'il y a des relâchements dans les comportements. On espère évidemment que les autres virus seront moins virulents étant donné qu'on se protège, mais pour l'instant, on n'en sait strictement rien.
Voilà. Et puis même si on dit que la grippe sera peut-être moins virulente cette année, il ne faut pas faire l'impasse sur la vaccination pour les personnes fragiles.
Exactement. Les personnes fragiles, donc, sont les personnes qui vont faire des formes graves de grippe. Ce sont quasiment les mêmes qui vont faire une forme grave de Covid. C'est-à-dire les personnes de plus de 65 ans qui ont des pathologies respiratoires, des pathologies cardiaques, des personnes immunodéprimées. Donc pour elles, il est recommandé d'aller se faire vacciner. La campagne commence le 13 octobre. Elle
la
est prise
prochaine.
En charge à 100%. Vous recevez un bon par la Sécurité sociale. Donc allez voir votre médecin traitant ou faites-vous vacciner en pharmacie ou chez une infirmière. Pour les autres, mettez-vous à distance, faisons attention parce que le système ne pourra pas absorber une double épidémie. Grippe et Covid, l'hôpital est déjà sous tension, donc imaginez si on rajoute une couche supplémentaire, je pense que très sincèrement, on va tous couler.
Et physiologiquement, on peut être co-infecté par la grippe et le Covid en
Il
même temps.
Il est possible d'avoir des co-infections lorsque deux virus circulent, ça pourra peut-être les rendre encore plus virulents ou strictement pareils, on n'en sait rien, ne parions pas sur l'avenir. Soyons vigilants, les Français font beaucoup d'efforts et on les remercie. C'est peut-être aussi grâce à ça que l'épidémie est encore un peu près contrôlable parce qu'on porte des masques en à distance, mais ça ne suffit pas. Une double épidémie, je le répète, serait terrible pour le système de santé et le système hospitalier.
Merci Jimmy. Alors, si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions santé-bien-être au 39-21, 50 centimes la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite.
Europe 1, sans rendez-vous. Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
Je suis ravie de vous accompagner dans cette émission Santé et bien-être aux côtés du docteur Jimmy Mohamed. Autour de la table dans ce studio, nous avons donc le chef du service de chirurgie orthopédique au CHU de Lille. Bonjour professeur Julien Girard.
Bonjour à toutes et à tous.
On va parler avec vous aujourd'hui des prothèses de hanches et de genoux qui peuvent venir au secours de nos articulations qui vieillissent ou qui déraillent. Alors d'abord, juste pour poser les bases, si on parle davantage de la hanche et du genou, c'est parce que ces articulations vieillissent moins bien que le coude, l'épaule ou la cheville ?
Oui, clairement, actuellement, c'est sûr que les arthroplasties, donc les prothèses de hanches et de genoux, sont de loin les plus fréquentes des chirurgies prothétiques. Il existe des prothèses de cheville, des prothèses de coude, des prothèses d'épaule, mais qui sont déjà implantées de façon beaucoup, beaucoup plus faible. Et chez des patients qui souvent ont une demande fonctionnelle moins importante. Pour situer à peu près la part des choses, là, les prothèses de hanches, c'est 180 000 actes chirurgicaux par an. Donc, c'est le premier acte chirurgical en France. Et les prothèses de genoux, c'est 100 000. Avec une explosion
c'est
des prothèses
énorme.
De genoux, ouais, c'est ça, ce qui fait qu'un quart de million de Français sont opérés tous les années d'une prothèse de hanche ou de genou. Donc c'est une chirurgie très très fréquente avec une explosion sur les dernières décennies.
Alors, et justement, pourquoi elle explose la chirurgie ? Qu'est-ce qui fait qu'on va plus user un genou ou une hanche ?
Alors, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est le vieillissement de la population. Les gens vivent plus vieux, donc leur cartilage, leur articulation vieillissent aussi. Et donc, chez les patients âgés, ils nécessitent plus de prothèses. La deuxième conséquence, c'est malheureusement l'explosion du surpoids, de l'obésité. Évidemment, si vous êtes gros en surpoids de 10, 15, 20, 30 kilos, vous allez surcharger vos articulations sur lesquelles vous marchez. Donc c'est pour ça que c'est la prothèse de hanche et de genou qui sont très fréquentes. Et ce, d'autant plus qu'on a de l'obésité infantile. Si vous prenez un adolescent ou un enfant qui, d'emblée, dès sa petite enfance, en fait, est en surpoids massif, ses articulations vont trinquer très rapidement. Et donc, ils vont avoir des prothèses relativement tôt. Ce qui entraîne le troisième facteur, c'est aussi l'explosion depuis environ une dizaine d'années de l'activité sportive et notamment de la course à pied. Alors c'est très très bien la course à pied, moi le premier qui court, il n'y a pas un souci, ça a plein de vertus cardiovasculaires. Malheureusement pour les articulations, si on dépasse certains seuils, en gros si on dépasse un marathon par semaine, donc soit 42 km.
Ah oui, c'est pas pour tout le monde quand même.
Non, mais c'est de plus en plus fréquent depuis ces dernières années, avec la mode des marathons, ultra-marathons, etc. Donc si on dépasse de 4 sorties de 10 km par semaine, on multiplie de façon très très importante, fois 4, fois 5, le risque d'avoir une prothèse de genou, de hanche 10 ans après. Donc ça fait pas mal de facteurs qui font qu'actuellement, malheureusement, c'est des chirurgies qui effectivement sont en plein essor.
Alors, de quoi se plaignent les patients qui ont la hanche ou le genou usé en vrac ?
Alors, c'est simple. En gros, il y a deux raisons qui les amènent à la consultation. C'est la douleur et la raideur. Alors évidemment, la douleur prime, parce que la douleur fait qu'ils traînent la patte, ils boitent, ils n'arrivent plus à enfiler leurs chaussures, leurs chaussettes, monter dans la voiture, ça les réveille la nuit, etc. C'est conjugué à la raideur. Si vous avez un genou raide qui plie à moins de 90 degrés, dans la vie de tous les jours, vous allez être quand même fort gêné. Et du coup, tout ça entraîne une incapacité fonctionnelle malheureusement non négligeable, avec un périmètre de marche qui diminue, et donc des activités qui diminuent elles aussi.
Et justement, quand est-ce qu'on sait qu'on doit se faire opérer d'une hanche ou d'un genou ? Souvent, les patients montrent chez le médecin généraliste leur radio pour leur dire « Regardez comment mon genou est abîmé ». Ce n'est pas forcément sur des images que vous traitez un genou ou une hanche.
Clairement, ça, il y a souvent ce qu'on appelle discordance radioclinique avec des patients qui peuvent avoir des radios entre guillemets moches, avec une arthrose importante sur la radio et qui finalement le supporte bien. Donc c'est vraiment uniquement la clinique qui prime. La chirurgie prothétique est vraiment l'aboutissement d'un échec du traitement médical, comme on dit, bien conduit. Donc on ne les opère pas de prime abord. La plupart du temps, on peut quand même, dans un premier temps, en perdant un peu de poids, en ayant quand même une activité physique sans impact, portée, nage, vélo, etc., avec des médicaments qui peuvent aussi aider, et notamment des infiltrations dans le genou et dans la hanche. On peut infiltrer dans le genou soit ce qu'on appelle de l'acide hyaluronique, ce qu'on appelle une viscosupplémentation. En fait, on met un liquide articulaire de synthèse qui relubrifie l'articulation, nourrit un peu le cartilage. Ça marche bien pendant un laps de temps. Voilà. Puis au bout d'un moment, malheureusement, la nature reprend ses droits. Et au bout de quelques années, mais ça aussi, tout dépend de la tolérance à la douleur de chaque patient, on en est rendu à une prothèse.
Et à partir de quel âge est-ce qu'on est plus souvent victime de problèmes de hanche et de genou?
Alors c'est simple, là statistiquement, pour les prothèses de hanche et de genou, ça varie la moyenne d'âge entre 70 et 74 ans. Donc on est quand même sur des patients plutôt âgés. Ce qu'on voit par contre, malheureusement, c'est qu'on a une explosion des prothèses chez les moins de 50 ans, due soit au surpoids et à l'activité sportive. Les deux conjugués. D'ailleurs, on peut faire aussi du sport en étant en surpoids, ce qui est une mauvaise idée pour les sports à impact, mais on en voit aussi. Donc là, chez les moins de 50 ans, vraiment, il y a un énorme problème. Parce qu'il faut bien imaginer que la demande fonctionnelle n'est pas la même quand on a 75 ans ou quand on a 35 ans. Bien évidemment, les deux populations veulent ne plus avoir mal et être souples, mais la qualité de vie à 30 ans, ils veulent taper dans un ballon, ils veulent jouer avec leurs enfants, ils veulent s'accroupir, jardiner, etc. Donc c'est pour ça qu'on a des chirurgies un peu différentes.
Et du coup, justement, où aller se faire opérer? On va dans n'importe quel centre si jamais on doit se faire poser une prothèse de genou ou de hanche?
Alors, il y a des centres qui ont plus d'activité que l'autre dans ces domaines. Alors maintenant, comme c'est une chirurgie très fréquente, c'est vrai que c'est fait dans quasiment toutes les villes, enfin les cliniques et les centres hospitaliers de France. Après, quand on s'adresse aux patients de 70-75 ans, une prothèse de hanche, une prothèse de joue remplie, cahier des charges, il n'y a pas de souci. Pour les patients très jeunes, la plupart du temps, on est sur des centres de référence, effectivement, chez les moins de 35-40 ans, donc avec une demande fonctionnelle très importante, une espérance de vie très importante, et donc un risque d'user la prothèse et potentiellement même d'être réopéré par la suite, ce qui n'est pas vrai chez les patients plus âgés. À ce moment-là, il y a des centres de référence qui font quasiment que ça, où on s'occupe avec des implants spécifiques et des chirurgies spécifiques pour ces patients à fort risque.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé et Bien-être avec le docteur Jimmy Mohamed dans ce studio. On retrouve le professeur Julien Girard qui est chef du service de chirurgie orthopédique au CHU de Lille. Nous venons de voir que la pose de prothèses de hanche et de genou était de plus en plus fréquente. Alors pour les auditeurs qui s'interrogent sur les détails de l'opération, on passe au bloc avec vous, professeur Girard. D'abord, est-ce qu'il y a des contre-indications à cette opération ?
En soi, il n'y a pas vraiment de contre-indications. Il y a des contre-indications d'ordre anesthésique. Évidemment, si le patient, pour des raisons X ou Y, qui a des pathologies trop lourdes et qu'on ne peut pas l'endormir, étant donné qu'il y a un risque pour le réveil à ce moment-là.
Est-ce que c'est de l'anesthésie générale?
Les deux sont possibles. Ça peut être une anesthésie générale ou une rachie anesthésie, donc que les jambes. Les deux sont possibles. C'est à la discrétion du chirurgien, de l'équipe. Enfin, personnellement, on n'a pas de contre-indication ni pour l'un ni pour l'autre. Dans l'ensemble, les patients prennent l'anesthésie générale parce qu'ils sont un peu stressés de la chirurgie, ce qu'on peut comprendre.
Est-ce que ça fait du bruit, non? Ça fait.
Du bloc opératoire, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au bloc opératoire, mais bon, il fait froid, c'est clair, etc. Et puis, en chirurgie orthopédique, effectivement, ce n'est pas la chirurgie la plus fine du monde. Donc, effectivement, il y a quand même des bruits de mèches, de moteurs, etc. Donc, il y a sensation de vibration au niveau du corps, etc. Objectivement, sous rachis anesthésie, je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure idée. Dans notre service, la liste, c'est moins de 1% de patients qui choisissent ce mode d'anesthésie. Mais après, c'est tout à fait possible. Si le patient a eu une grande expérience, c'est possible.
Vous opérez les deux genoux, si jamais les deux genoux qui sont abîmés, vous le faites en même temps ou dans un temps un peu différent?
Alors, on peut faire les deux, c'est plus fréquent sur les hanches qu'on fasse les deux le même jour que les genoux. On le fait vraiment uniquement sur des cas très particuliers, donc c'est quand même pas tout le temps. C'est quand le patient vient en consultation qu'il n'est pas capable de dire si c'est le côté gauche ou le côté droit qui est le plus gênant. À ce moment-là, s'il a une arthrose cliniquement et radiographiquement bilatérale, on propose le geste bilatéral, ce qui simplifie quand même un petit peu les choses. Maintenant, si le patient a mal que d'un côté, et même s'il y a une arthrose sur la radio des deux côtés, ce qu'on voit fréquemment, on opère que le côté douloureux. Mais oui, ça peut se faire sans souci.
Alors, quels sont les matériaux utilisés aujourd'hui dans les prothèses?
Alors, ça dépend un peu des prothèses, parce qu'il y a plusieurs philosophies. Il y a beaucoup d'implants qui existent encore actuellement, que ce soit sur les genoux ou les hanches. En gros, pour donner un ordre d'idée, il y a soit des implants, ce qu'on appelle cimentés, soit sans ciment. Donc un implant cimenté, si on prend une prothèse de hanche, on met une tige dans le fémur. Si c'est une tige cimentée, elle sera en chrome cobalt avec du ciment. Et si c'est un implant sans ciment, ce qui a maintenant quand même la préférence de pas mal de chirurgiens, c'est en titane et revêtu comme du corail, si vous voulez, d'un revêtement poreux. Où l'os va venir ostéo-intégrer, donc pénétrer dans l'implant pour le fixer sur le long terme. Donc ça, on réserve aux patients qui ont un bon os pour avoir une fixation vraiment pérenne dans le temps.
Et ces prothèses, elles sont sûres, pas de risque? On a eu parfois des mauvaises surprises avec des prothèses défectueuses, mais désormais, on peut rassurer les patients. Aucun risque avec les prothèses actuelles.
Les prothèses actuelles, il n'y a pas de souci. On ne pourrait pas vous dire qu'il n'y en aura sûrement plus jamais, mais c'est sûr que par rapport, malheureusement, aux soucis qu'il y a pu avoir sur un certain céramique qui cassait ou des prothèses en métal avec des métalloses ou choses comme ça, maintenant, objectivement, les implants mauvais ont été bannis et on a des survies, donc c'est-à-dire des non-réopérations à plus de 20, 25, voire 30 ans sur les prothèses, donc avec des espérances de vie très importantes des implants.
Parce que la crainte des patients, c'est lorsqu'ils tombent de casser cette prothèse ou de se luxer justement la prothèse, que c'est des accidents qui arrivent fréquemment.
Alors ça, effectivement, alors ils cassent jamais la prothèse. Objectivement, c'est pareil, ça n'existe plus, ça a existé pendant un moment. Par contre, on a une explosion de ce qu'on appelle des fractures périprothétiques, donc des fractures autour de la prothèse, c'est-à-dire que s'ils tombent, ils cassent le fémur autour de la tige ou autour de la prothèse de genou. Et ça, c'est chez les patients âgés qui, au lieu de se casser le col du fémur, en fait, ils se cassent le fémur parce qu'ils n'ont plus le col qui a été remplacé par la prothèse. Et ça, effectivement, c'est en ce moment un énorme défi parce que c'est des chirurgies lourdes à reprendre. Il faut changer la prothèse, mettre des grandes prothèses, des tiges, des vis pour faire la synthèse, donc assembler tout ça. Chez des patients qui, souvent, ne sont pas en grande forme d'un point de vue médical. Donc, effectivement, il y a un risque non négligeable de ce côté-là.
Alors concrètement, comment se passe l'opération? Donc, de préférence sous anesthésie générale. Et ensuite, l'incision se fait à quel niveau? Ça se passe
donc, alors, autant sur le genou, c'est assez consensuel. Hein. Sur le genou, on fait une incision, ce qu'on appelle médiale, au milieu du genou, en avant de la rotule, sur à peu près 15 cm pour donner un ordre d'idée des choses. Oui. Sur la hanche, c'est beaucoup plus complexe dans le sens où il y a à peu près autant de chirurgiens que d'idées et d'écoles. Donc, on peut faire un abord qui est de très antérieur. Devant, vraiment, dans l'aine, en antérolatéral, par exemple, pour les anglo-saxons, en latéral pour les américains, ou en postérolatéral, donc plus dans la fesse. Donc, en gros, il y a quatre types d'incisions, avec chacun, bien évidemment, leur avantage, leur inconvénient. Alors là, pareil, la longueur, c'est entre 10 et 15 cm, c'est plus petit que sur les prothèses de genoux. Mais on essaye, dans tous les cas de figure, quel que soit le type d'incision, de faire ce qu'on appelle des voies intermusculaires, donc on passe entre les plans musculaires, surtout pour ne pas toucher les fessiers, c'est exactement, pour avoir une réhabilitation plus rapide en post-opératoire.
Alors c'est marrant parce que c'est vrai que les chirurgiens racontent ça, on dirait que c'est tout simple, on va mettre une petite prothèse,
oui,
mais quand
ça.
Même, avant de mettre une prothèse de genou, il faut aussi un peu travailler le genou ou travailler la hanche, il faut casser un peu de l'os.
Ouais. Ah bah, par exemple, sur une hanche, les patients sont toujours surpris, on est obligé de luxer l'articulation, c'est pas sur le genou, mais effectivement, on expose l'articulation et après on la travaille, alors soit avec une instrumentation dédiée, et c'est là où après il y a aussi plein de techniques. Ça peut être fait avec une navigation par robotique ou des instrumentations manuelles ou les deux. Mais effectivement, après, il y a tout un travail de préparation et c'est là où le patient sous anesthésie sent un peu les vibrations parce qu'on est obligé de travailler l'os. Si on râpe le fémur avec une tige, faut taper un peu dessus. Et effectivement,
vous utilisez quels instruments du coup?
On a des râpes, des marteaux, des scies, des moteurs, des choses...
Comme moi le week-end, en fait,
des choses assez basiques, en toute honnêteté. Après, c'est l'instrumentation qui, par contre, elle est ultra spécifique. Autant les instruments par eux-mêmes, pour couper un os ou une scie. Par contre, pour l'instrumentation, c'est très précis, notamment pour les genoux, avec ce qu'on appelle un ancillaire, donc quelque chose qui nous aide à mettre la prothèse exactement dans l'axe voulu, dans le degré voulu, en fonction de la déformation de préopératoire.
Europe 1, Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous écoutez Europe 1 jusqu'à 16h. Nous prenons soin de votre santé et votre bien-être et plus particulièrement aujourd'hui de nos hanches et de nos genoux. À partir de quand une pose de prothèse est-elle nécessaire et est-ce que cette opération est efficace à 100%? Pour en parler, nous sommes avec le professeur Julien Girard, chef du service de chirurgie orthopédique au CHU de Lille. Alors on a évoqué l'opération, mais voilà, est-ce que tous les patients qui ont passé ce cap de l'opération y ont gagné en qualité de vie?
Alors là, il faut bien faire la différence entre les prothèses de hanche et les prothèses de genou. Les prothèses de hanche, dans l'immense majorité des cas, une fois de plus, on est en médecine, il n'y a jamais 100% de résultats assurés. Mais dans les prothèses de hanche, objectivement, à 6 mois, la plupart du temps, on a ce que les patients appellent une hanche oubliée. C'est-à-dire que si ce n'est la cicatrice, ils ne se rappellent plus qu'ils ont été opérés. Ça, c'est assez fabuleux pour les hanches et assez rapide. C'est malheureusement encore beaucoup moins vrai pour les genoux, où les résultats sont plus longs à obtenir. Il y a quand même 20 à 30% de patients moins satisfait. Ça laisse quand même une belle marge de patients satisfaits, mais les résultats sont quand même toujours moins bons pour une prothèse de genou. Ça fait quand même une grosse différence. Mais c'est vrai que pour les prothèses de hanche, c'est assez fabuleux, notamment chez les patients jeunes, avec une grosse demande fonctionnelle, outre le fait d'être indolore, mais aussi en termes de reprise d'activité sportive, parce que maintenant, sur les hanches, on a développé des techniques spécifiques, justement, pour qu'ils puissent reprendre leur activité sportive, qui fait partie de la demande actuellement, ce qu'on appelle des millennium patients, les patients vraiment des années 2000 et plus, là, qui ont une grosse demande fonctionnelle. Donc, par exemple, pour la hanche, on développe ce qu'on appelle là, le resurfaçage de hanche, qui permet d'éviter une prothèse classique, qu'on réserve chez les patients beaucoup plus âgés. Donc on coupe plus le fémur, on coupe plus rien, on met juste une espèce de calotte, un chapeau sur la tête du fémur, qui a le gros avantage, outre comme une prothèse, d'entraîner une indolence, mais aussi de la reprise d'activité sportive. Et ça, c'est leur seule hanche, c'est un vrai sujet et qui est vraiment une vraie satisfaction chez les patients.
Et donc vous avez opéré des sportifs, des sportifs de haut niveau ont été opérés de la hanche et ils arrivent à reprendre leur activité comme si de rien n'était ?
Oui, exactement. Alors c'est vrai que souvent on les opère, il faut être honnête, en fin de carrière. Fin de carrière chez eux, c'est 30 ans en gros, donc c'est chez les sportifs de niveau. Mais il y en a encore effectivement un certain nombre qui sont opérés pendant leur carrière, qui peuvent reprendre après sur des sports à impact, je pense au tennis, au rugby, au judo, avec des sports quand même très violents et à risque notamment, normalement sur les prothèses, avec des techniques adaptées. Comme je vous ai expliqué, ça peut maintenant être le cas.
Et quand on sort de l'intervention, donc c'est une intervention qui se fait en ambulatoire,
Est possible, ça peut être en ambulatoire, beaucoup de centres le développent. Souvent, c'est des hospitalisations courtes, quoi qu'il arrive, de 3 jours en gros. Donc les patients sortent quand même assez vite. Là, ils marchent tout de suite.
On remarche le premier jour.
On remarche de J0, parce que plus vite debout, c'est ce qu'on leur dit toujours, plus vite sorti. Et après, par contre, ils attaquent avec de la kinésithérapie à domicile, la plupart du temps pour les hanches. Souvent en centre pour les genoux, parce que la récupération, comme je vous ai dit, plus compliqué, c'est des patients souvent un peu plus âgés, mais avec en gros un mois de rééducation pour les hanches et plutôt 2 à 3 mois pour les genoux, ils récupèrent après dans les suites rapidement.
Et au niveau de la douleur, comment ça se passe ?
Alors, faut être honnête, les 2-3 premiers jours, c'est pas indolore, même si maintenant les techniques ont vraiment sont améliorées depuis quelques années. On injecte en intra-articulaire localement, comme ça joue pendant 2 à 3 jours. Au départ, il y a quand même des perfusions pendant 1 ou 2 jours, puis après un relais par la bouche, d'antidouleurs classiques. Ils prennent des antidouleurs pendant 10 à 15 jours, en gros. C'est vrai que c'est pour ça que, personnellement, moi, j'aime bien garder les patients 2 jours à l'hôpital pour gérer la douleur, qu'en ambulatoire, des fois, ça peut être un peu plus compliqué à gérer, mais là encore, c'est tout à fait possible.
Est-ce que, là, en période de Covid, vous allez être amené ou vous avez déjà été amené à déprogrammer des interventions pour des chirurgies de prothèses de genoux ou de hanches et des malades qui attendaient déjà peut-être depuis un petit moment ?
Ouais, c'est une catastrophe en ce moment. On opère plutôt des patients qui sont en forme, donc qui n'ont pas de comorbidité associée. Donc
pourquoi vous opérez ceux qui vont bien ?
C'est parce que malheureusement tous les patients plus âgés, notamment plus âgés ou qui sont en surpoids ou souvent avec le trio, surpoids, obésité, problèmes cardiovasculaires, etc. Et donc ils sont à risque après la chirurgie malheureusement de décompenser l'une ou l'autre de ces pathologies et donc de prendre un lit de réanimation. Or les lits de réanimation maintenant sont ce qu'on appelle priorisés pour les patients Covid. Donc dans ces patients-là à risque de potentiellement prendre un lit, on les opère moins, beaucoup moins. Nous je vois dans un gros centre comme à Lille, on peut en opérer plus qu'un par jour alors qu'avant on en avait beaucoup plus la possibilité.
Et où qu'est-ce qu'ils font ces patients ? Du coup,
malheureusement, ils restent chez eux. Mais souvent, en plus, c'est des patients qui ont été déprogrammés suite à la première vague et qui, là, malheureusement, ils reprennent plusieurs mois d'attente, ce qui peut être très problématique chez les patients effectivement âgés qui vont rester gravataires chez eux avec des décompensations, alors soit de l'étage du dessus ou en dessous, ils peuvent décompenser leur dos etc, mais ils peuvent aussi rester confinés à leur domicile et avec tout ce que ça s'ensuit là encore pour décompenser des pathologies de...
Et comment ils réagissent et comment vous leur expliquez les choses ?
On a toujours un peu du mal à leur expliquer malheureusement, on leur dit que ce sont les conditions sanitaires, les autorités qui nous imposent de faire ces choix, mais c'est des choses assez compliquées. On a des patients qui nous relancent quotidiennement pour savoir leur date opératoire, il y en a un certain nombre, on n'a même pas de date opératoire encore à l'heure actuelle.
Donc le Covid impacte aussi un service de chirurgie orthopédique, impacte tout notre système et pas que les réanimations, parce qu'on voit que le prisme de la réanimation.
Ah non, toutes les chirurgies programmées, alors la neurochirurgie aussi, la chirurgie ophtalmologique, etc., est impactée avec des déprogrammations ou des reprogrammations en fonction de la lourdeur du patient.
Alors, et hors Covid, une prothèse, ça se change au bout d'un certain temps ?
Oui, ça se change. C'est pour ça que la problématique n'était pas la même chez un patient jeune ou plus âgé. En gros, sur les prothèses de hanche, même si le problème de l'usure, qui était un problème récurrent il y a encore quelques décennies, est maintenant réglé, on est sur des durées de vie d'au moins 25 ans. Donc, c'est très bien pour la plupart des patients. Sur les genoux, c'est à peu près la même chose aussi. Donc, on est quand même sur des durées de vie importantes. Chez les patients jeunes, c'est toujours une petite problématique.
Merci beaucoup, professeur Julien Girard, chef du service d'orthopédie du CHU de Lille. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci encore.
Europe 1, Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi. Et c'est lors de notre séquence sur la santé du quotidien. Aujourd'hui, à l'occasion du Pasteur Don, on s'est intéressé à l'Institut Pasteur. D'ailleurs, qui était Pasteur ? Quelles sont les grandes découvertes médicales de l'Institut ? Et sur quelles maladies travaillent les chercheurs aujourd'hui ? Benjamin Lévesque, bonjour.
Bonjour Anne.
Vous êtes journaliste pour cette émission et vous êtes allé poser toutes ces questions dans la rue.
Pasteur, il y a l'Institut Pasteur.
Le physicien scientifique, enfin je ne sais pas si tu es physicien, mais scientifique qui a découvert le vaccin de la rage.
Alors Pasteur, c'était un professeur, il me semble, un docteur.
Ah, les vaccins,
c'est pas lui qui a découvert la pénicilline.
Ah, Pasteur, c'est un scientifique qui a découvert le vaccin contre la rage, il me semble, Louis de son prénom.
Alors l'Institut Pasteur est chargé de recherche, de faire de la recherche sur des vaccins, des maladies aussi, il me semble.
Par exemple, le Covid en ce moment, peut-être, ou même d'autres vaccins de maladies plus anciennes. Le SRAS, comme l'hépatite C, B.
Ils font tout un tas de vaccins, ils font vaccins contre la grippe, notamment.
Savoir quelle souche va être plus prépondérante telle année pour préparer les vaccins de l'hiver, là, enfin de l'automne.
Alors rafraîchissez-nous la mémoire, Benjamin. Pasteur, c'était qui déjà ?
Eh bien, Louis Pasteur de son petit nom, un célèbre chimiste et biologiste qui s'est dans un premier temps intéressé à la fermentation. Il a mis en place un traitement sur certains aliments pour éviter qu'ils ne soient contaminés par des microbes, c'est la pasteurisation. Mais il est aujourd'hui surtout connu pour sa découverte du vaccin contre la rage, comme le raconte le docteur Christophe Denfer, directeur scientifique de l'Institut Pasteur.
Les travaux qu'il a menés sur le virus de la rage, qu'on ne pouvait pas voir à l'époque, c'était un virus, donc les microscopes à l'époque ne permettaient pas de voir les virus, ont permis par des cultures successives sur de la moelle de lapin d'atténuer le virus de la rage et de pouvoir ainsi proposer une vaccination qui a été mise en œuvre dans un premier temps chez un enfant.
Et c'est ainsi qu'en 1888, il crée l'Institut Pasteur afin de promouvoir justement la vaccination contre la rage.
Et évidemment, depuis, il y a eu d'autres recherches. L'Institut Pasteur, ce n'est pas que le vaccin contre la rage.
Oui, exactement, Jimmy. Aujourd'hui, l'Institut Pasteur, c'est mondial. Il y en a une trentaine dans le monde. Près de 30 000 personnes, médecins, chercheurs, épidémiologistes travaillent sur des maladies infectieuses ou virus comme le paludisme, la grippe, Ebola, le VIH, mais aussi d'autres maladies, notamment tout ce qui découle des neurosciences.
Par exemple, des équipes qui travaillent sur la perception, en particulier l'audition. On va véritablement renforcer nos recherches sur ce sujet-là. On travaille sur l'autisme, on travaille sur la schizophrénie, on travaille sur les addictions.
Et actuellement aussi, Benjamin, l'Institut, évidemment, est mobilisé face à l'épidémie de Covid-19.
Oui, une cinquantaine d'équipes qui travaillent depuis des mois pour à la fois fabriquer des tests sérologiques, développer des vaccins. Trois projets sont d'ailleurs en cours là-bas. Et puis, comme l'explique le docteur Christophe Denfer, l'Institut Pasteur tente aussi de trouver de nouveaux médicaments.
Est-ce qu'on peut cibler certaines protéines du virus avec des nouvelles molécules ? Est-ce qu'on peut cibler des protéines, des cellules qui sont infectées par le virus et par là même empêcher la multiplication du virus ? On travaille sur la recherche de ce qu'on appelle des anticorps thérapeutiques qui pourraient là aussi être utilisés pour empêcher le virus de rentrer dans les cellules.
Voilà, mais pour donner les moyens aux chercheurs de découvrir ces nouveaux traitements, vous pouvez faire un don sur le site internet pasteurdon.fr ou par téléphone au 3620.
Le 3620, c'est bien noté. Merci Benjamin Lévesque pour toutes ces précisions.
Europe 1, Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors aujourd'hui, une question de Julien, je vous la lis. J'ai 28 ans, toujours célibataire, je profite de ma jeunesse, je vois beaucoup de filles, mais pour des coups d'un soir le plus souvent. Certains proches m'ont dit l'autre jour que j'avais passé l'âge pour cela et que je devrais maintenant penser à chercher une fille pour du sérieux. Est-ce qu'ils ont raison, les proches, Catherine ?
Alors, je ne sais pas s'ils ont raison. On peut se dire qu'il s'interroge sur la difficulté qu'il a de se poser, de construire une relation, de construire un couple. Et à ce titre, pourquoi pas ? Et c'est tout à fait entendable. Maintenant, est-ce que justement, c'est le souhait de Julien ? Est-ce que Julien a envie d'avoir un couple ? Est-ce qu'il y a un âge pour être absolument en couple ? Si ce n'est effectivement parce qu'on voudrait pouvoir fonder un foyer, parce que, et donc du coup, évidemment, on ne va pas attendre les calendes grecques. À ce titre, ils ont peut-être raison.
Mais alors justement, il y a un âge pour se caser ou c'est vraiment dans la tête ?
Non, il y a un âge d'un point de vue biologique. C'est-à-dire que si on veut faire des enfants, il faut bien se dire qu'à moins d'attendre ou d'avoir toujours une compagne suffisamment jeune, elle, puisqu'elle est rattrapée par une histoire tout à fait physiologique, à ce titre, si on veut avoir quelqu'un qui a à peu près son âge, il y a un âge en effet. Pour faire des enfants maintenant, pour les relations, pour bâtir une qualité de relation, ça se fait évidemment à tout âge.
Bah peut-être qu'ils sont inquiets, les proches, en fait, c'est peut-être pas l'âge qui pose problème. 28 ans, c'est pas très vieux, mais plus son mode de vie, s'il enchaîne les coups d'un soir, c'est peut-être témoin d'une instabilité et qui peut inquiéter à juste titre les proches.
Absolument, c'est-à-dire que la question n'est évidemment pas une histoire de sexualité et de consommation de sexualité. C'est la difficulté de créer des liens et de pouvoir perdurer dans ces liens, pouvoir investir la relation, faire rentrer l'autre dans sa bulle et lui donner suffisamment de valeur pour qu'il y reste. Et c'est peut-être là que se pose que les amis ou les proches s'interrogent, c'est-à-dire que finalement il est toujours tout seul en réalité et dans un déni de l'autre, un déni de la valeur de l'autre, si ce n'est ce qui vient satisfaire son besoin immédiat.
Donc ça veut dire que quand on enchaîne les relations comme ça, c'est qu'on cherche à fuir quelque chose, alors qu'on pourrait se dire on profite de la vie, donc c'est de l'instabilité, de l'insécurité ?
Oui, c'est une certaine insécurité en effet, parce que pouvoir répéter avec l'autre les choses, c'est aussi se poser face à ce qu'on n'est pas encore arrivé à bâtir ensemble, parce que quand on se rencontre un soir, ça peut être formidable, c'est un peu comme ça que tous les gens qui ont des coups d'un soir vendent un peu l'histoire. La réalité, c'est que au début, il faut que deux corps s'apprivoisent, que deux corps se rencontrent, et donc si on fait que des coups d'un soir, on n'arrête que quand ça commencerait à devenir une rencontre possible. Donc finalement, c'est une fausse rencontre. Je ne dis pas ça de toutes, bien sûr, il y en a qui sont magiques dans l'instant, mais majoritairement, il faut que deux corps s'accordent. Et donc, ils ne se donnent pas le loisir de s'accorder. Donc, ils restent toujours avec une idée finalement défaitiste, ou en tout cas d'échec potentiel, ou en tout cas, ils ne se donnent pas la possibilité de pouvoir faire progresser sa qualité relationnelle et sa qualité sexuelle.
Et est-ce que c'est pas tout simplement que Julien n'a pas trouvé la bonne personne et que voilà, il se rend compte que les corps ne s'accordent pas au bout d'un soir ?
Peut-être, mais encore une fois, c'est quoi la bonne personne ? On peut aussi s'interroger pourquoi je ne rencontre que les mauvaises personnes. Peut-être que justement, c'est ma difficulté de rencontre qui est à l'œuvre là-dedans. Et peut-être aussi que l'idée de la bonne personne, c'est une idéalisation que l'on se fait de la femme avec laquelle ou de l'homme avec lequel on voudrait partager quelque chose, mais toujours reporté dans un truc idéal pour justement ne jamais le faire atterrir dans le principe de réalité.
Surtout qu'on pense qu'être en couple, ça fait partie d'un objectif ultime de la vie, mais peut-être que ce n'est pas l'objectif de certains. Il peut être très heureux comme ça et peut-être que toute sa vie, il sera heureux et s'accomplir Absolument. Différemment que par une vie à deux.
Bien sûr, parce qu'il y a des tas de choses à faire dans la vie, il y a des tas de choses pour s'épanouir et la relation n'est pas nécessairement le point d'orgue. Donc on peut tout à fait se dire que c'est encombrant la relation amoureuse et qu'on a d'autres choses à vivre ailleurs, peut-être parce qu'on est plus compétent, peut-être. Alors il y a peut-être une défaillance, mais on donne de quoi nos défaillances seraient à corriger systématiquement dans la mesure où il est épanoui, dans la mesure où il peut développer d'autres aptitudes, pourquoi pas.
Donc si liberté, le rôle laisse tranquille, on laisse vivre tel quel et on absolument. Se pose pas de questions, pas de pression inutile si tout va bien et s'il est vraiment heureux, mais encore faut-il être sûr.
C'est ça, donc toute la difficulté c'est de ne pas projeter son propre malheur sur l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui seraient malheureux, qui auraient peur d'être seuls et qui voient dans la personne qui est seule un grand drame, alors que pour lui qui l'est, c'est plutôt un lieu de confort, de sécurité, peut-être parce qu'il évite ce qui l'effraie.
Et qu'est-ce que Julien peut faire de remarques comme ça ? Est-ce qu'il doit répondre ? Qu'est-ce qu'il peut répondre ?
Oh ben je crois qu'il peut dire que c'est un voilà, il peut c'est sourire, sa vie. Il peut sourire, c'est sa vie. Il y a pas d'agressivité à avoir ou dire c'est pas moi ma tasse de thé ou c'est pas mon urgence. Peut-être que je m'en mordrai les doigts plus tard, je n'en sais rien. Mais pour l'heure, c'est en tout cas mon choix. Après, évidemment, qu'il vérifie que c'est bien son choix et pas son choix inconscient qui l'empêche d'être dans les liens avec les autres.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, vous les attendez avec impatience. C'est Stéphane Bern et Mathieu Noël. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Oui, bonjour Anne. Alors, le thème du jour va vous plaire. Abdication, démission, on se lève et on se casse.
Est-ce que vous insinuez que Anne va être virée bientôt ? Je ne sais pas. Ou qu'elle va démissionner ? En tout cas, c'est osé de votre part. Stéphane, nous reviendrons sur ceux qui ont abdiqué, effectivement. Édouard VIII, duc de Windsor, Benoît XVI. Et puis, plus proche de nous, je vous parlerai d'une démission qui a fait beaucoup de bruit, celle de Jean-Pierre Pernaut.
Oui, le thème me plaît. Merci beaucoup à tous les deux et bonne émission.